RFI. Avec Suno Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Le Royaume-Uni, l'Allemagne ou les Pays-Bas ont déjà franchi le pas. La France, elle, repousse depuis longtemps sa décision. Il est urgent d'attendre. C'est un petit peu le sentiment partagé lorsque l'on observe l'attitude des autorités françaises face au cannabis thérapeutique. Pourtant, le ton semble avoir changé puisqu'en juillet dernier, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a entrouvert une porte. Un avis sur les bénéfices et les modalités de délivrance de ce cannabis dans le cadre médical est sur le point d'être remis par un comité scientifique à la demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Traitement de la douleur, prise en charge des effets secondaires de certaines médications, propriétés, principes actifs. Au cours de cette émission, nous tenterons d'y voir plus clair sur ce recours thérapeutique avec en toile de fond cette question des considérations éthiques et peut-être même encore morales, souvent l'amalgame persistant entre l'usage récréatif d'un stupéfiant dont la détention et la consommation restent interdites par la loi française et, très différent, la délivrance sur ordonnance d'un remède susceptible de soulager et de limiter l'impact d'une maladie chronique sur la qualité de vie de certains patients. Protocole thérapeutique, indication, encadrement de l'usage du cannabis médical dans la prise en charge de certaines pathologies. Ces questions, on va les aborder avec nos invités. Avec vous, professeur Michel Ducreux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service d'oncologie digestive à Gustave Roussy à Villejuif, en région parisienne. Nous retrouverons en ligne tout à l'heure le docteur Didier Boissira, neurologue spécialiste de la douleur, directeur de recherche à l'INSERM et directeur de l'unité de recherche de physio pathologie et pharmacologie clinique de la douleur à l'hôpital Ambroise Paré de Boulogne-Billancourt. Et puis nous serons aussi en ligne avec le docteur Philippe Battel, psychiatre addictologue. Nous verrons comment la législation évolue outre-Manche avec Marina Daras, correspondante de RFI à Londres. Et puis nous vous proposerons aussi un coup de projecteur sur la situation en Afrique du Sud. Et en fin d'émission, nous retrouverons le docteur Catherine Solano. Les questions des auditeurs, bien sûr. La question avec Catherine Solano, sexologue.
Priorité santé sur RFI.
Un avis rendu fin novembre en France a retenu notre attention, celui du comité éthique et cancer, qui estime, pour parler simplement, injuste, non éthique donc, de s'opposer à l'usage du cannabis par des malades qui disent en tirer bénéfice. Tout était en fait parti d'un recours, hein, d'une patiente qui est malade, qui a un cancer, professeur Michel Ducreux. Est-ce que justement certains patients qui viennent consulter dans votre service, qui sont soignés à Gustave Roussy, sont demandeurs de cette option pour faire face à la douleur ?
Oui, je crois que la demande, elle est clairement exprimée par les patients à l'heure actuelle, essentiellement parce que grâce à Internet, quelque part, on a la possibilité de voir que dans certains pays, effectivement, le cannabis est maintenant utilisé à usage thérapeutique, et aussi parce qu'il faut bien dire que la gestion des effets secondaires des traitements du cancer ou la gestion de la douleur n'est pas parfaite et que les patients sont à la recherche d'un petit plus dans certains cas.
C'est ce qu'on appelle les douleurs résistantes.
Réfractaires, et en particulier ce qu'on appelle essentiellement les douleurs neurogènes, c'est-à-dire que les douleurs qui sont dues à la compression par le cancer d'un nerf ou quelque chose comme ça, qui sont des douleurs qui sont encore plus compliquées à traiter et qui souvent répondent assez mal aux morphiniques, par exemple.
Alors, aujourd'hui, ce produit est présent, le grand public le connaît, et on peut même dire, hein, professeur Michel Ducreux, que certains de vos patients l'utilisent déjà contre la loi pour en tirer justement ses bénéfices.
Ah oui, certains de mes patients l'utilisent. Certains me le disent, certains ne me le disent pas, mais certains de mes patients l'utilisent. Une enquête américaine, alors la situation aux États-Unis est un peu différente, mais une enquête aux États-Unis a montré que l'utilisation des dérivés du cannabis en général était présente chez 43% à peu près des patients souffrant du cancer.
Alors c'est vrai qu'associé un petit peu automatiquement, c'est cet effet antidouleur, même si il n'est pas justement question de le rapprocher avec l'effet récréatif, ce qu'on peut dire l'effet planant. D'autres effets sont soulignés Et là aussi, c'est très important dans le cas précis de la prise en charge du cancer, c'est bien sûr la lutte contre les vomissements et tout ce qui est lié à l'appétit et par voie de conséquence à la dénutrition.
Absolument. Et la lutte contre les nausées, vomissements induits par la chimiothérapie, on dispose de médicaments spécifiques pour cela. Ces médicaments sont parfois en échec. Et moi, j'ai une patiente qui est venue me voir, qui avait été au préalable traitée dans un autre centre, et qui m'a dit, écoutez, si vous me refaites de la chimiothérapie, c'est pas la peine de prescrire vos médicaments, ils marchent pas. Moi, j'ai ma recette. Je me fais des inhalations à base de résine de cannabis. Bon, je lui ai dit, vous faites ça tranquillement dans votre chambre, fermez la porte, et puis on gérera comme ça cette situation. Donc, ça veut dire effectivement que dans certains cas de nausées, vomissements réfractaires, ça peut être parfaitement utile. Après, l'avis du comité d'éthique est un avis assez nuancé. En particulier, ce qui nous a paru important dans cet avis, c'est de dire que si on utilise ce type de dérivé, les preuves fortes dans la littérature manquent tout de même un peu. On n'est pas très solide sur la littérature, donc il faudrait que ce soit un usage évalué, contrôlé, comme peuvent le promouvoir on va attendre l'avis de la NSM, mais comme peuvent le promouvoir les autorités de santé.
Quand vous dites littérature, c'est la littérature scientifique, ce sont ces fameuses revues, donc il manque en fait, pour parler simplement, d'essais cliniques.
Il manque d'essais cliniques. Quand on veut mettre sur le marché un médicament qui lutte contre les nausées et les vomissements de la chimiothérapie, il faut produire une étude extrêmement bien faite, très coûteuse, avec des grands nombres de patients, des patients qui prennent le produit, des patients qui prennent un placebo, parce que l'effet placebo dans ce contexte peut être quelque chose d'important, c'est-à-dire que vous ne prenez pas un produit actif, mais parce que vous êtes sous l'effet de quelque chose que vous pensez actif, ça peut réduire vos nausées et vos vomissements, donc c'est quelque chose qu'il faudrait évaluer d'une façon extrêmement précise.
En fait, la vie des gens a anticipé la loi. Il y a une grande tolérance d'une certaine partie du corps médical, professeur Michel Ducrot. Est-ce qu'il y a encore une partie des médecins qui regardent ça avec un regard un petit peu prohibitionniste ?
Oh, sûrement. Vous savez, c'est le problème de toutes les situations comme ça, où il y a forcément, face à l'efficacité potentielle de ce produit, des éléments dans notre jugement, et vous l'avez rappelé dans notre introduction, des éléments dans notre jugement qui sont des éléments scientifiques, mais comme je vous l'ai dit, on en manque un peu, des éléments qui sont des éléments de bienfait pour nos patients, et puis des éléments qui sont des éléments reposant sur notre propre jugement par rapport à l'utilisation de ce produit qui a d'autres utilisations. En même temps, il faut aussi rappeler que les cancérologues sont prescripteurs de morphinique, et que la morphine peut être aussi utilisée de manière extrêmement délétère.
Précisément, professeur Michel Ducrot, est-ce que vous pensez qu'il y a davantage de tolérance, qu'on pourrait dire, par rapport à certains médicaments durs? Je fais une analogie, bien sûr, avec les drogues dures, c'est morphinique, c'est dérivé, et certains produits qui sont classés dans le langage commun, hein, dans la vision commune, drogue douce, comme le cannabis thérapeutique, qui pourraient être des dérivés, bien sûr, dans un cadre médical différent, tout ça encore avec des études cliniques derrière pour dire si c'est favorable à la santé des patients.
Alors, je suis désolé parce que c'est moi qui vous ai lancé dans cet amalgame et je pense que justement, il ne faut pas faire cet amalgame. C'est-à-dire, d'abord, les preuves de l'efficacité des morphiniques sont établies d'une façon absolument extraordinaire, absolument irréfutable. Et le nombre de patients qui en bénéficient directement avec une douleur extrêmement intense qui disparaît des premières prises de morphinique et un nombre très important. Donc il y a vraiment un niveau de preuve qui n'a strictement rien à voir. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on utilise des dérivés morphiniques sous forme orale, donc avec un risque d'addiction qui est un risque beaucoup plus faible que l'injection intraveineuse de ces substances. Donc c'est quelque chose qui est bordé. Ça ne veut pas dire que dans certaines circonstances, effectivement, on peut pas arriver à un mésusage de ces produits. Mais on est vraiment dans un champ complètement différent, puisque le cannabis, comme on l'a dit, peut être quelque chose qui ajoute à des traitements conventionnels, mais avec en plus un niveau de preuve qui n'est pas du tout de la même intensité. Donc il faut clairement séparer les deux éléments.
Alors nous avons le docteur Didier Boissira en ligne. Docteur Boissira, bonjour.
Oui, bonjour.
Je rappelle que vous êtes neurologue, vous avez signé l'ouvrage L'antidouleur aux éditions du Cherche Midi. Précisément, dans ce livre, vous expliquez que pour telle pathologie, mais pas seulement, pour telle douleur, tel produit est plus ou moins efficace. Dans le cas du cannabis thérapeutique, c'est indiqué dans quel type de douleur précisément ?
Alors, pour l'instant, en France, il est indiqué dans aucun type de douleur, puisqu'il n'a aucune autorisation. Mais dans d'autres pays, il est autorisé pour des douleurs qu'on appelle douleurs neuropathiques, c'est-à-dire des douleurs qui sont dues à des lésions ou des maladies du système nerveux. Alors ça peut être des choses comme la sclérose en plaques, des lésions des nerfs périphériques, etc. Bref, Donc, l'indication principale, semble-t-il, ce serait ces douleurs particulièrement compliquées à traiter, ces douleurs qui sont difficiles à prendre en charge dans la mesure où elles ne répondent pas bien aux antidouleurs habituelles, hein. Par exemple, les anti-inflammatoires, le paracétamol et ces choses-là ne marchent pas très bien ou pas du tout sur ces douleurs. Même les morphiniques, hein, les dérivés de la morphine, ne marchent pas très bien, ne sont pas très efficaces. Et c'est une des indications de ce potentiel des cannabis, des cannabinoïdes, du cannabis ou des cannabinoïdes. Mais il faut ajouter d'emblée que les preuves scientifiques de l'efficacité de ces produits dérivés du cannabis dans le domaine de la douleur existent, mais toutes les études qui ont été réalisées montrent que l'efficacité, l'amplitude des effets est relativement faible. Donc on ne peut pas attendre non plus de résultats miraculeux à partir de ces produits. Néanmoins, ils peuvent être intéressants chez certains patients, dans des sous-groupes de patients tout à fait bien identifiés, chez qui tous les autres produits ont échoué en quelque sorte.
Alors, Didier Boissira, docteur Boissira, est-ce que vous pouvez nous expliquer sous quelle forme, bien sûr là encore on regarde ce qui se passe à l'étranger puisque ce n'est pas encore effectif en France, même s'il y a plusieurs médicaments qui ont été autorisé par la Haute Autorité de Santé, le prix n'étant pas fixé, ces produits ne sont pas mis sur le marché, ces produits existent, c'est sous quelle forme ? Parce qu'il faut bien expliquer aux auditeurs qu'il ne s'agit pas d'aller à la pharmacie, j'ai parlé très trivialement, s'acheter un petit joint, c'est pas ça du tout.
Voilà, c'est exact, ce n'est pas du tout ça. Effectivement, il y a un produit qui a une autorisation officielle, mais qui n'est pas disponible puisqu'il y a eu des difficultés dans la négociation de prix. Ce produit est disponible dans la plupart des pays européens, sans parler du reste du monde. Ce produit se présente sous la forme d'un comprimé, hein, qui est administré par voie sublinguale, hein, sous la langue. Les produits qui sont disponibles aujourd'hui sont plutôt des médicaments, mais dans certains pays, il est vrai que la forme végétale, hein, la plante cannabis peut également être prescrite. Ça ne sera pas le cas en France, en tous les cas, ça ne sera sûrement pas le cas en France, puisque seront a priori, hein, d'après toutes les discussions qui ont pu avoir lieu jusqu'à présent, ça serait plutôt les formes médicamenteuses, ou alors sous forme d'infusion, de tisane, des choses comme ça. Et on a évoqué aussi peut-être les inhaleurs, c'est-à-dire le vapotage. Hein. Donc on peut que les Français connaissent bien.
Donc la cigarette sous une forme de cigarette électronique, mais avec un dérivé de cannabis.
Exactement. Donc ça, ce sont des formes d'administration qui sont déjà utilisées dans d'autres pays, hein, depuis fort longtemps, le Canada bien sûr, mais d'autres pays européens. Il y a plusieurs formes possibles, hein, et a priori, ça ne sera pas le joint qu'on ira rouler en achetant chez un buraliste.
Hein. Ou comme dans les coffee shops à Amsterdam, par exemple. Professeur Michel Ducreux, vous vouliez réagir.
Oui, je voulais réagir. Le comité d'éthique, c'est vraiment, je suis complètement d'accord avec mon collègue, le comité d'éthique s'est vraiment prononcé sur le fait que, après avoir en plus auditionné un certain nombre de personnes des différentes autorités de santé, il ne faut pas faire de la recommandation de l'utilisation du cannabis une recommandation à fumer. On est dans un pays où la prévention est absolument catastrophique. La France, à mon avis, fait vraiment partie des très très mauvais élèves dans le domaine de la prévention des cancers. On lutte depuis longtemps quand même contre l'utilisation du tabac. C'est pas pour maintenant revenir en arrière et dire aux gens, quand vous avez un cancer, vous pouvez fumer. Alors certes, du cannabis, mais enfin, on voit très bien comment le message peut être brouillé.
D'accord, professeur Michel Ducreux, on a bien compris que c'était l'oncologue qui parlait.
Absolument.
Voilà, préoccupé par les questions de santé publique. On va se retrouver après un petit détour par Londres, puisque le Royaume-Uni a franchi le pas assez récent, puisque ça remonte simplement au 1er novembre dernier.
Priorité santé sur RFI.
À Londres, on vous retrouve, Marina Darras, bonjour.
Bonjour.
Marina, correspondante de RFI, première question. Alors, quel a été ce processus, hein, j'ai parlé de cette date du 1er novembre, l'autorisation. Quel processus, quelles étapes jusqu'à cette décision effective, donc, d'il y a à peine un mois et demi ?
Alors, le débat avait d'abord été lancé au printemps dernier par la publication de témoignages de plusieurs parents qui utilisaient illégalement du cannabis médical pour soigner et soulager leurs enfants atteints de maladies rares. C'est notamment le cas de Billy Caldwell qui a beaucoup fait réagir. Sa mère, Charlotte Caldwell, avait été interpellée à l'aéroport d'Heathrow où les autorités lui avaient confisqué l'huile à base de cannabis qu'elle ramenait du Canada pour pouvoir calmer les crises d'épilepsie de son fils. D'autres cas ont été largement médiatisés, hein, comme celui d'Alfie Dingley, qui lui aussi souffre d'une forme d'épilepsie rare, et c'est cela qui a poussé le gouvernement à lancer une consultation quelques mois plus tard. Le ministre de la Santé de l'époque, Sajid Javid, avait par la suite demandé l'avis de deux groupes d'experts indépendants qui ont de manière unanime reconnu les qualités thérapeutiques de certains médicaments à base de cannabis. Le gouvernement a donc accepté de changer le cannabis thérapeutique de catégorie. Donc selon la réglementation sur l'usage abusif de drogue, il était jusqu'alors classé comme une drogue de classe 1, c'est-à-dire une drogue n'ayant pas de valeur thérapeutique, et désormais une drogue de classe 2, ce qui signifie qu'il peut être prescrit par des praticiens dans des cas rares. Un exemple de drogue similaire de catégorie 2 serait la kétamine, par exemple. Donc, sous couvert d'avoir reçu l'autorisation du ministère de la Santé, les prescriptions et la possession de cannabis thérapeutique sont désormais légales.
Alors, il y a des conditions tout de même, hein, Marina Daras. Quelles sont ces conditions requises pour se voir prescrire du cannabis thérapeutique ?
Alors c'est le GP, l'équivalent du médecin traitant, qui peut le prescrire, mais ce n'est bien évidemment pas aussi simple que ça. Très peu de gens finalement vont y avoir accès. Il faut une dérogation de la part du ministère de la Santé, car il faut pouvoir prouver qu'il s'agit d'une maladie rare et que les autres traitements plus courants et surtout moins coûteux ne font pas effet. Les patients qui sont les plus à même de recevoir ce genre de médicaments sont les personnes atteintes d'épilepsie ou de sclérose en plaques et les patients atteints de cancer et qui subissent les effets secondaires de la chimiothérapie, notamment les nausées et vomissements extrêmement violents. Cela peut être administré sous plusieurs formes, ça dépend vraiment du besoin, mais le plus courant reste l'épidiolex, qui est une huile que l'on applique à même la peau. Pour les personnes atteintes de sclérose en plaques, cela se présente sous forme de spray buccal appelé nabiximol, alors que pour les personnes atteintes de cancer, ce sont plutôt des cachets appelés nabilol.
Et Marina Daras, est-ce qu'il y a des premiers retours à un mois et demi, c'est peu pour avoir du recul. En tout cas, est-ce qu'il y a eu justement des réactions, des commentaires ?
Il n'y a pas vraiment de retour officiel pour l'instant, puisque cela ne fait qu'un peu plus d'un mois que l'interdiction a été levée. Mais il faut rappeler que les personnes qui en bénéficient utilisaient déjà ces médicaments de manière illégale, en allant les chercher au Canada ou aux Pays-Bas. Cela fait donc relativement longtemps qu'ils utilisent ces médicaments et leurs médecins ont témoigné de changements incroyables sur les symptômes et de rechutes lorsque les médicaments n'étaient plus disponibles. Certains médecins sont bien évidemment toujours très réticents, mais beaucoup ont salué le gouvernement pour cette avancée qui, selon eux, allait considérablement améliorer la vie de nombre de personnes au Royaume-Uni.
Merci beaucoup Marina Daras en direct de Londres. Professeur Michel Ducreux, j'ai vu que quelque chose vous faisait tiquer. Et je vous comprends, c'est quand on parle d'administration de ce type de remède ou de médication à des enfants.
Oui, absolument. Ça, je crois que alors, je ne parle pas du cas particulier qui a été évoqué parce que c'est un contexte extrêmement spécial. Mais ce qui est sûr, c'est que le cannabis est dangereux pour le cerveau en formation. Donc, il est dangereux pour le cerveau des adolescents. Et donc, il faut absolument, sauf cas extrêmement particulier, qui était probablement le cas de ce patient anglais, de ce jeune patient anglais, il faut absolument éviter l'usage de cannabis, quelles qu'en soient les raisons, je dirais, chez des jeunes de moins de 20 ans.
Docteur Didier Boissira, neurologue spécialiste de la douleur, on l'a bien répété depuis le début de cette émission. Pour l'instant, la législation française n'a pas encore changé. Malgré tout, est-ce que ça fait longtemps, vous, dans votre pratique, que vous vous intéressez à ces produits? Spécialiste de la douleur, on l'a dit, vous connaissez les autres produits pour antalgiques, pour faire face justement à ces douleurs parfois résistantes. Comment est-ce qu'on en vient à s'intéresser finalement à un produit qui est tout simplement interdit? Est-ce que vous êtes en ligne, docteur Didier Boissira? Docteur Boissira?
Oui, vous m'entendez?
Oui, est-ce que vous avez entendu ma question sur le processus qui vous a conduit à vous intéresser à ce produit, le cannabis thérapeutique, alors même qu'il était interdit?
Alors, tout simplement parce qu'il est utilisé par tous nos collègues à l'étranger depuis de nombreuses années. Et puis, il existe des données scientifiques qui étaient compatibles avec l'efficacité de ce de ces produits dans la prise en charge de certaines douleurs. On sait que, par exemple, sur le plan scientifique, il existe un certain nombre de récepteurs très spécifiques pour ces produits, et que ces récepteurs dans le cerveau sont localisés aux endroits qui sont importants pour la détection, la perception de la douleur, par exemple. Donc, c'est sur ces bases-là, et puis sur l'expérience de l'utilisation de ces produits, qui est très ancienne en réalité, bien entendu, que les spécialistes de la douleur du monde entier se sont intéressés à ces produits et à leur possible utilisation dans la prise en charge de certaines douleurs. Donc, nous-mêmes en France, bien sûr, on ne peut pas les prescrire ou les utiliser, mais on est assez informé par nos collègues dans le cadre des congrès, des rencontres qu'on peut avoir avec eux, etc., et par les publications, puisqu'il existe un très grand nombre de publications concernant l'utilisation potentielle de ces produits dans la prise en charge de la douleur. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, les résultats de ces études sont pas toujours positif, il faut pas non plus exagérer. Donc il y a des résultats positifs, des résultats moins positifs. On pense que ces produits peuvent être utiles dans certains cas, mais en aucun cas ils doivent être prescrits en première intention, et on les réserve uniquement pour, dans les pays où ils sont autorisés bien sûr, on les réserve uniquement pour les patients qui n'ont pas du tout répondu aux autres traitements et dans certaines douleur particulière. On va pas donner ça pour une rage de dents.
Professeur Michel Ducreux, c'est important. On en parlait tout à l'heure pour Londres également. Cette volonté des autorités de restreindre la possibilité de délivrance des produits, ça doit encore rester, à vos yeux, quelque chose d'exceptionnel, ou il n'y a pas forcément cette vision de dire c'est un traitement à part ?
Exceptionnel, je sais pas où il faut positionner le curseur. Je crois qu'il faut utiliser une prescription encadrée au minimum. Et comme ça vient d'être dit, je pense qu'il faut, si on l'utilise en France de manière relativement large, que cette utilisation soit ensuite analysée et évaluée, de façon à voir un petit peu, essayer de voir quels sont potentiellement les effets et quelles en sont potentiellement les conséquences, positives ou néfastes. Une conséquence qui est potentiellement intéressante tout de même de cette forme de, entre guillemets, légalisation, c'est d'éviter que nos patients, et en particulier les patients cancéreux qui ont déjà beaucoup de choses à gérer d'une manière se mettre dans l'illégalité. Il faut, personnellement, je ne suis pas acheteur de ce type de produit, mais c'est pas forcément très simple. On se retrouve dans des milieux qui sont des milieux quand même pas extrêmement,
voire demander à ses proches d'aller le faire pour soi,
voire demander à ses proches, enfin, tout ça c'est extrêmement gênant, et je pense que vraiment ils ont d'autres choses à gérer.
On a parlé des vertus antidouleurs, vertus antiémétiques. Alors quand on s'intéresse un petit peu sur le net, cette grande foire de ce que peut apporter le cannabis thérapeutique, on lit des choses absolument, apparemment on dirait que ça soigne tout, loin s'en faut, je le dis bien là, et certains même associent des propriétés curatives, notamment pour les cancers du sein. Vous avez entendu parler de ça? Est-ce qu'on est simplement, là encore, professeur Michel Ducreux, au stade de la rumeur? Qu'en est-il précisément?
On est quand même vraiment au stade de la rumeur. Je crois que là, il faut quand même rester sérieux. On a déjà signalé, et encore une fois, je suis d'accord avec mon collègue, que l'effet sur la douleur potentiellement, ou l'effet sur les nausées, les vomissements que je signalais tout à l'heure, c'est quelque chose qui peut s'ajouter à des traitements conventionnels, et dans certaines circonstances, chez des patients réfractaires aux traitements conventionnels. Mais essayer de remplacer les traitements anticancéreux, que ce soit la chimiothérapie, les thérapies ciblées, la radiothérapie, la chirurgie, par du cannabis, là c'est vraiment du domaine c'est même pas de la science-fiction, c'est du domaine de l'imposture. Il faut quand même se méfier et dire que derrière l'utilisation potentielle du cannabis, et on voit ça particulièrement au Canada, il y a à l'heure actuelle des lobbies industriels qui sont extrêmement puissants. On parle toujours du grand lobby de l'industrie de la santé qui est le grand Satan. Là il y a des gens qui à l'heure actuelle...
Ça rapporte
beaucoup d'argent sur le commerce du cannabis. Donc je crois qu'il faut, c'est une raison supplémentaire, je dirais, pour garder une certaine précaution par rapport à l'utilisation de ces produits.
Tout à l'heure, j'employais en introduction le terme de frilosité. On a beaucoup parlé d'éthique. Est-ce qu'on peut se demander si une grosse partie du débat, docteur Didier Boissira, relève de la morale? Et est-ce que vous voyez un parallèle avec une frilosité qui a un certain temps aussi accompagné tous les traitements contre la douleur? On laissait les gens souffrir, on laissait en particulier les enfants souffrir. On était vraiment très réservé sur la délivrance de certains produits antidouleurs. Est-ce qu'on est un petit peu dans la même sphère aujourd'hui, la même sphère morale, docteur Boissira?
Oh, il y a un aspect moral dans tout ça, c'est certain. On a connu ça, nous, beaucoup avec l'utilisation de la morphine, hein, qui pour maintenant est assez largement répandue, mais il y a quelques années, c'était pas si facile de traiter nos patients avec la morphine, de faire accepter ce type de traitement, à cause de la réputation et de l'histoire de ces produits et des problèmes liés à l'addiction, bien entendu. Donc on est bien entendu dans un cadre sociétal un peu particulier, et il est évident que des aspects moraux, culturels interviennent dans ces décisions. Alors, bon, les choses évoluent, tant mieux. Je crois qu'il y a un autre aspect qui est important de souligner, c'est que cette forme de légalisation, ou en tout cas de libération un petit peu d'utilisation de ces produits, est aussi très importante pour nous dans le cadre de la recherche. Parce que grâce à ces nouvelles mesures, on devrait être capable donc de proposer des nouveaux protocoles de recherche, ce qu'on ne peut pas faire jusqu'à présent, hein, avec ces produits qui nous permettraient à nous de bien mieux identifier les patients susceptibles de bénéficier au mieux de ces produits, de vérifier quels types de produits sont les plus efficaces, quelle forme d'administration est la plus intéressante, etc. Et donc, ça nous permettrait de vraiment améliorer nos connaissances sur ces produits, qui aujourd'hui, ce qui n'est pas possible. Hein, on ne peut pas faire de recherche sur les cannabinoïdes aujourd'hui dans notre pays. Alors, on s'appuie sur les données que publient nos confrères, mais si on pouvait nous-mêmes réaliser des études dans nos centres, ça serait quand même très bien.
Alors Didier, docteur Boissira, vous m'avez permis de faire le lien avec notre prochain interlocuteur. Cet interlocuteur, c'est vous, docteur Philippe Battel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre addictologue. Nous sommes interrogés pendant cette émission, aborder justement ce sujet avec un addictologue. Docteur Battel, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'une certaine manière d'entretenir l'amalgame?
Oui, il y a un risque majeur, et j'aimerais vraiment qu'on ne le prenne pas, d'entretenir un amalgame entre une dépénalisation de ce produit utilisé à des fins récréatives, qui est la grande majorité jusqu'à présent de l'usage de ce produit dans nos populations, d'un usage thérapeutique, qui est parfaitement bien décrit dans votre émission, est serré dans quelque chose qui est ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque. Et l'amalgame, il est, à mon avis, de deux types. Le premier, c'est de se servir de l'idée qu'on va enfin, et tant mieux, rendre possible l'évaluation thérapeutique des cannabinoïdes dans le traitement d'un certain nombre d'affections, et au premier rang desquelles la douleur, y compris chez des sujets en deuxième rang dans lesquels des antalgiques ne fonctionnent pas. Et il faut rappeler quand même que c'est sur des populations qui sont très malades, parfois en fin de vie, et agiter le spectre derrière ça d'une libéralisation totale du cannabis à des fins essentiellement récréatives. C'est ce qui s'est passé, en gros, initialement en Californie. C'est-à-dire qu'on a entretenu, on est passé d'une hypocrisie à l'autre. C'est-à-dire qu'on savait très très bien qu'il y avait un grand nombre d'usagers récréatifs du cannabis qui ne posaient pas de problème, que le seul problème, il était juridique, parce que ce produit, il ne pouvait pas avoir accès à ce produit. Donc, par conséquent, on a ouvert la possibilité de vendre ce produit à des fins soi-disant thérapeutiques. Et donc, du coup, pendant très longtemps, les Californiens allaient voir des médecins pour se faire prescrire du cannabis pour des indications qui n'avaient rien d'être un cancer en phase terminale ou une autre pathologie qui pouvait bénéficier du cannabis, mais simplement à des fins récréatives. Et je trouve extrêmement dommage qu'on passe d'une hypocrisie à l'autre, qu'on mette en place un système qui est un système qui n'a strictement rien à voir. Et je pense que ces deux évaluations qui sont bien évidemment pour lesquelles il y a des ponts, mais qui doivent être complètement distinctes. Est-ce que oui ou non, il est important de maintenir dans notre pays ce produit du côté des produits illicites sur le plan de la récréation et de l'usage récréatif? Deux, est-ce que oui ou non, des cannabinoïdes ont une balance bénéfice-risque intéressante en termes thérapeutiques?
Je vais vous poser une question très directe quand même, docteur Philippe Battel. Vous êtes addictologue. Est-ce qu'un malade peut devenir accro d'un dérivé de cannabis à usage thérapeutique?
Probablement oui, et alors?
Voilà.
C'est-à-dire que non, mais vous voyez...
Mais ça mérite d'être dit.
Voilà, c'est exactement la même... Vous savez, avec les opiacés utilisés dans le traitement de la douleur, on a ce débat qui est permanent et qu'il faut continuer d'avoir et qu'il faut approcher de manière extrêmement délicate. Parce que quand vous avez un sujet qui est en fin de vie, et qui est extrêmement soulagé par un opiacé qui est à demi-vie courte et qui va en devenir non seulement nécessitant, mais dépendant. Bien sûr, c'est un problème, mais c'est surtout un problème pour des sujets qui n'ont pas de douleur chronique et qui vont utiliser ces produits en les dévoyant de leur usage pharmacologique extrêmement bien cadré. Donc, je ne suis pas du tout certain que la dépendance de sujets qui sont extrêmement malades, qui souffrent énormément à un produit, soit un problème même addictologique. Hein. Il faut l'intégrer globalement dans l'accompagnement qu'on a avec ce type de patient.
Et le professeur Michel Ducreux voulait réagir à ce que vous venez de dire.
Oui, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit encore une fois. La petite nuance que je mettrais, c'est que potentiellement, les cannabinoïdes peuvent être utilisés effectivement dans des douleurs réfractaires, donc on est, comme vous l'avez dit, dans la fin de vie. Après, il y a l'utilisation chez des patients qui ont une chimiothérapie qui parfois est une chimiothérapie dite adjuvante, donc est destinée à les guérir ou à augmenter leurs chances de guérison, et on l'utiliserait pour lutter contre les nausées, les vomissements. Là, on est donc chez des patients qui sont des patients qui, potentiellement, s'ils deviennent dépendants, vont poser un problème de dépendance parce qu'ils vont être guéris. Donc à ce moment-là, ça pose quand même un problème. Néanmoins, comme vous l'avez souligné, c'est une problématique de bénéfice-risque, et puis il est hors de question, et c'est pour ça qu'il faut que cette autorisation soit encadrée, il est hors de question, et en tout cas ça a été la position très claire du comité d'éthique de la Ligue, offrir l'opportunité de pouvoir recevoir ce produit dans un environnement qui est un environnement très cadré et thérapeutique, voilà. C'est en faveur de ça qu'on s'est prononcé très précisément.
Docteur Philippe Battel, la France, un petit peu, on peut dire, notamment en Europe, à la traîne de cette législation. Est-ce qu'on peut parler en la matière, y compris pour ce cannabis thérapeutique, d'une pression prohibitionniste?
Oui, on a longtemps réagi avec d'abord des données qui étaient tout à fait soit connues et qu'on voulait absolument pas regarder sur la dangerosité réelle et comparer des drogues les unes vis-à-vis des autres. Hein. On a en tête bien évidemment ce travail absolument remarquable qui a été publié dans le Lancet Journal il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, 5-6 ans, par le neurobiologiste David Nutt, et qui essayait de classer 20 drogues en termes de dangerosité sur des critères qui étaient des critères tout à fait subtils et très très bien pondérés, non seulement personnels, mais sur l'environnement immédiat du sujet, son lien avec la justice, la dangerosité que ce produit pouvait engendrer non seulement sur son corps, mais sur son psychisme, sur les relations avec les autres, sur des comportements. Et le cannabis a été classé avec un indice très moyen, qui est celui de 20. Rappelons que le LSD était à 5 et que l'alcool était à 82 en termes d'indice de dangerosité. Pour tout dire, cette évaluation absolument remarquable, scientifique au plus haut niveau, qui mesurait la dangerosité potentielle de ce produit, classait cette drogue dans un niveau intermédiaire. Or, en France, on continue d'avoir peu ou prou deux camps qui s'affrontent. Un camp prohibitionniste qui considère que qui vole un œuf, qui fume un pétard va se mettre de l'héroïne dans les veines. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'escalier, qu'on a démontré complètement fausse, et que ce produit va rendre schizophrène la grande majorité des sujets qui le consomment, versus ceux qui considèrent que pas du tout, c'est une drogue tout à fait naturelle et absolument pas dangereuse parce qu'elle est naturelle, et qu'il n'y a aucun dommage. On aimerait bien que finalement les choses soient un peu plus subtiles.
Et intermédiaire. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous, docteur Philippe Battel. Je rappelle que vous êtes psychiatre addictologue. On vous retrouve, professeur Michel Ducreux. On a bien compris savoir faire la part des choses au cas par cas, bien évidemment, et éviter à tout prix cet amalgame, malgré tout, ce qui est intéressant dans ce dossier, c'est à quel point on voit que les patients, d'une certaine manière, y compris pour des pathologies graves, expérimentent et sont déterminés à se faire du bien aussi.
Oui, c'est bien, et je regrette qu'en France, cette pression des patients, pas particulièrement dans ce dossier-là uniquement d'ailleurs, la pression des patients en France, elle est, en particulier les patients cancéreux, qui est mon domaine d'expertise, elle n'est pas si forte que ça. Et là, il se trouve que quelque part, et c'est un des rôles aussi du comité d'éthique de la Ligue contre le cancer, que de répondre à des saisines. Moi, j'ai rencontré la patiente qui avait fait la saisine, et on a pu discuter longuement de sa situation. Et ça a été une expérience qui était une expérience tout à fait positive et extrêmement intéressante que d'entendre cette patiente parler de sa propre expérience. Et puis, j'avais aussi, comme je vous l'ai dit, un certain nombre de patients qui m'avaient déjà fait part de leur expérience. Donc, c'est quelque chose qui doit nous apprendre à avancer. Mais effectivement, avancer de manière raisonnée et de manière subtile, comme ça vient d'être dit.
Alors, l'expérience des patients, également l'expérience d'autres pays, en Europe, en Amérique du Nord, ça avance sur le plan législatif. En Afrique australe, c'est le Lesotho qui a été précurseur. Et on peut citer aussi le cas de l'Afrique du Sud. En septembre, la Cour constitutionnelle a décriminalisé le cannabis, pour l'instant à titre privé et récréatif. Donc là, attention aussi à pas faire de mélange, même si la marijuana est toujours interdite dans l'espace public. Certaines mentalités évoluent. Un premier dispensaire de cannabis à usage médical a ouvert ses portes en début d'année à Durban. Dans le sud, la législation est plutôt floue. Les médecins sud-africains sont autorisés à prescrire des produits à base de cannabis, mais beaucoup ne le savent pas encore. Noé Ochebaudin a rencontré à Johannesburg l'anesthésiste Regina Hurley. Elle fait pression sur les autorités pour plus de liberté dans ce secteur.
Peut-on dire aujourd'hui que le cannabis à usage médical est complètement légal en Afrique du Sud?
Le statut du cannabis à usage médical est flou. Les médecins sud-africains peuvent recommander certains patients pour qu'ils puissent bénéficier d'un traitement à base de cannabis. Néanmoins, la légalité du processus est encore mal établie. C'est pourquoi nous travaillons sur ce processus avec le ministère de la Santé, pour que, finalement, un plus grand nombre de patients aient accès au cannabis à usage médical avec, de préférence, un cannabis cultivé et produit ici, en Afrique du Sud. Mais c'est très difficile, car le cannabis médical est différent du cannabis récréatif. Le cannabis récréatif a été décriminalisé récemment. Il est donc légal de consommer du cannabis chez nous. Mais le cannabis médical, lui, ne fait pas partie de l'usage récréatif.
Selon vous, quels sont les bienfaits du cannabis à usage médical? Quels sont ces symptômes que l'on peut soulager ou ces maladies que l'on peut soigner?
Les principales maladies que l'on traite avec du cannabis aujourd'hui sont les douleurs chroniques, la fibromyalgie, les soins palliatifs. Beaucoup de patients atteints de cancer l'utilisent aussi. Pour le VIH, il y a plusieurs bénéfices. Vous pouvez soigner les symptômes comme la nausée, le manque d'appétit. Mais nous avons aussi récemment montré que le cannabis médical peut ralentir le processus du VIH, car il agit au sein du système immunitaire et des lymphocytes T. Vous pouvez aussi soigner le syndrome de Kaposi en limitant la tumeur. On peut ajouter aussi des maladies auto-immunes, la sclérose en plaques, qui répondent positivement au traitement. Le cannabis médical n'est pas légal depuis longtemps aux États-Unis, au Canada ou au Royaume-Uni. Mais maintenant que c'est le cas, je pense que de nouvelles recherches vont trouver d'autres maladies que l'on peut aider à soigner.
L'Afrique du Sud fait figure d'exception sur le continent. Pensez-vous que l'Afrique du Sud peut amener d'autres pays à changer leur comportement vis-à-vis de l'usage médical du cannabis?
Oui, je pense que l'Afrique du Sud va montrer la voie pour le reste de l'Afrique. Lorsque vous regardez les impacts positifs sur la santé, mais aussi dans le secteur agricole, et j'espère que l'on pourra se rapprocher des pays pionniers comme le Canada, les États-Unis ou le Royaume-Uni. Et nous devons nous en inspirer comme base de travail. Cela permettra à de nombreuses personnes de comprendre les bienfaits du cannabis à usage médical. Ce sera le cas particulièrement en Afrique du Sud, avec notre très grande population de patients atteints de VIH et avec le nombre de patients en soins palliatifs. C'est le genre de traitement que nous devrions utiliser plus souvent.
L'anesthésie sud-africaine Régine Hurle avec Noé Auché-Baudin à Johannesburg. Si dans quelques jours, c'est attendu, l'ANSM, l'Agence du médicament, approuve la délivrance de cannabis thérapeutique sous condition, on l'a bien compris, est-ce qu'il va falloir former des médecins? Est-ce qu'il va falloir commencer à comprendre plus précisément, même si certains l'ont fait en allant à l'étranger, on l'a bien compris tout à l'heure, professeur Michel Ducreux, est-ce qu'il faudra que dans des services, des médecins aillent se spécialiser?
Je crois que de toute façon, quand il apparaît un nouveau produit sur le marché d'une manière générale, que ce soit un anti-hypertenseur, un anti-cancéreux, un anti-que sais-je, il faut absolument que les médecins soient formés à son usage, en particulier quand ce sont des médicaments dont on a dit qu'ils peuvent être un petit peu difficiles à manipuler. Ça, c'est la première chose. Et pas utilisés de manière extrêmement large ou trop large. Ça, c'est absolument évident. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que la problématique de l'évaluation d'efficacité de ce produit, c'est qu'il y a deux substances actives principales à l'intérieur du cannabis. Je ne vais pas donner les noms pour ne pas complexifier le débat, mais en fonction des études, une de ces substances est plutôt mise en avant. Les effets ne sont pas exactement les mêmes au niveau du cerveau, donc ça rend l'évaluation complexe, et c'est pour ça aussi qu'il faut probablement avoir une forme médicamenteuse plutôt que des formes naturelles, parce que selon la plante et selon, alors je ne suis pas du tout un expert de la pousse du cannabis, mais selon la plante qu'on utilise, on peut avoir des concentrations respectives de ces deux produits actifs qui sont un petit peu différentes. Donc ça rend les choses très difficiles à évaluer. La forme médicamenteuse, de ce point de vue-là, rend plus de services. Et ça rejoint ce qui a été dit par mon collègue spécialiste de la douleur. C'est vrai que s'il y a une utilisation qui est une utilisation autorisée en France, ça permet à des gens comme ce collègue, qui sont des gens sérieux, de mettre en place des études.
Et de faire de la recherche.
Et de faire de la recherche et d'évaluer de façon très correcte. Je rappelle que pour un certain nombre d'études dont on parle, qui ont montrer les faits, on est sur des comparaisons entre 30 patients dans un groupe et 30 patients dans un autre.
Merci beaucoup, on a compris. Ce sont des jalons qui sont posés, on attend que tout ça se concrétise. On remercie le docteur Didier Boissira, neurologue qui était en ligne tout à l'heure avec nous, et vous, professeur Michel Ducreux, chef du service d'oncologie digestive à Gustave Roussy à Villejuif. Merci beaucoup. La santé sexuelle dans Priorité Santé, c'est bien sûr avec vous, docteur Catherine Solano, bonjour.
Bonjour Caroline.
Docteur Solano, sexologue, on va prendre tout de suite en ligne la question d'un auditeur, c'est Salif qui nous appelle de Bamako au Mali. Bonjour Salif.
Bonjour Caroline, bonjour Catherine, bonjour à toute l'équipe de Priorité Santé, bienvenue à Bamako.
Bonjour.
Merci.
Salif.
Merci. Docteur Solano vous écoute, posez votre question Salif.
Alors, ma question est la suivante. Doit-elle, sa partenaire peut-elle être la cause d'une infection chez la femme?
Alors, vous pensez à quel type d'infection en particulier, Salif?
D'infection sexuellement transmissible, par exemple.
Alors, votre réponse, Catherine?
Alors, déjà, il y a beaucoup de moins de risques à mettre un doigt dans le vagin pour avoir une infection sexuellement transmissible qu'un pénis. C'est pas du tout pareil. Mais il y a, et en général, il n'y a pas d'infection sexuellement transmissible par le doigt parce que c'est pas sexuel le doigt. Donc, mais il y a quand même une infection pour laquelle ça peut arriver, c'est pour l'herpès. C'est-à-dire que, vous voyez ce que c'est l'herpès? C'est ce qu'on appelle les boutons de fièvre. C'est des petits boutons qu'on a autour de la bouche par moment et qui brûlent énormément. Bon, tout le monde n'en a pas, c'est un virus. Et donc, si jamais vous frottez parce que ça brûle, ça fait mal, ou vous étalez de la pommade, par exemple, dessus, et que sans vous être lavé les mains, vous allez mettre un doigt au niveau de la zone sexuelle de votre partenaire, de la vulve ou à l'intérieur du vagin, ben, vous pouvez lui transmettre le virus de l'herpès depuis la bouche jusqu'à la zone sexuelle.
Ça veut dire, excusez-moi Catherine, docteur Solano, que le virus de l'herpès buccal est le même que celui de l'herpès génital?
Eh bien, il y a deux virus de l'herpès. Il y en a un qui est plutôt buccal, l'autre qui est plutôt génital, mais ils peuvent s'échanger. D'accord. Et ça veut dire aussi que l'herpès, c'est un virus quand même spécial, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans tout le corps. Vous pouvez avoir de l'herpès aux yeux. Bon, par exemple, si vous avez de l'herpès oculaire, c'est pareil, si vous vous frottez les yeux, vous allez avoir du virus sur vos doigts. Et si vous mettez vos doigts au niveau du vagin de votre partenaire, et c'est pareil dans l'autre sens, si une femme a du virus au niveau de sa bouche et qu'elle touche le sexe de son partenaire, elle peut lui en donner. Mais je dirais que c'est à peu près la seule infection vraiment sexuellement transmissible qui puisse aussi se transmettre, parce qu'elle se transmet du peau à peau. Pour les autres infections sexuelles, franchement, non, il n'y en a pas. En revanche, si vous avez les doigts vraiment sales, que vous avez fait des travaux, je sais pas, dans la boue, n'importe
une
quoi.
Hygiène normale,
une hygiène normale, se laver les mains. Sachant que le vagin, c'est quand même une zone qui est ouverte sur l'extérieur, donc il se défend bien contre les microbes, et qu'on n'a pas besoin de se stériliser les mains ou le pénis avant d'avoir un rapport sexuel, évidemment. Et je vais ajouter une chose, le doigté, ça peut aussi déchirer l'hymen, le fait de mettre un doigt dans le vagin. Si la jeune fille est vierge, alors ça peut être très positif si elle se dit « moi j'ai peur d'avoir mal la première fois, donc si on élargit un petit peu mon hymen avec mon amoureux, ça sera bien, j'aurai moins mal la première fois ». Ça peut être embêtant si elle veut garder son hymen intact.
Voilà pour cette réponse, Salif. Vous avez d'autres questions à poser au docteur Solano ?
Non, c'est bon, je suis très satisfait.
Merci beaucoup, Salif. Excellente journée à vous à Bamako. Docteur Solano.
Merci beaucoup.
Merci. On va aussi répondre à deux questions posées par des auditeurs de Priorité Santé sur Facebook. La première est d'Adama. Hein. Est-ce qu'une femme peut tomber enceinte pour la première fois lorsqu'elle a fait l'amour, donc pour la toute première fois?
Alors oui, elle peut tomber enceinte et non seulement c'est possible, mais il y a en général beaucoup, beaucoup de risques. Ou de chance si elle a envie d'être enceinte, ça c'est sûr. Mais la question est plutôt posée. Donc pourquoi il y a beaucoup de risques? La première, c'est qu'une femme qui a sa première fois est en général jeune, c'est logique. Et plus on est jeune, plus on est fertile. Une femme de 18 ans est beaucoup plus fertile qu'une femme de 30 ans, par exemple. Donc, elle a plus de risques de tomber enceinte. Bon, la seule fois où une femme n'a aucun risque de tomber enceinte la première fois, c'est si elle est ménopausée. Bon, mais c'est quand même rare les femmes qui commencent leur vie sexuelle après la ménopause. Et il y a encore une deuxième raison, c'est parce que, en général, une jeune femme qui a un amoureux, elle hésite à faire sa première fois. Elle se dit, est-ce que c'est le bon? Est-ce que j'ai un peu peur? Est-ce qu'on va y aller? Et le jour où elle dit oui, en général, c'est un jour où elle en a très envie. Et souvent, pourquoi on a très envie? Parce qu'on est en pleine période d'ovulation. Donc, une femme très fertile en pleine période d'ovulation, la première fois, il y a un risque très élevé de grossesse.
Alors, on a une deuxième question Facebook. C'est une jeune femme qui la pose, c'est Laurel. J'entends souvent les gens dire que lorsqu'une femme attend un enfant, si cet enfant est de sexe masculin, donc ça va être un bébé garçon, cette future maman aura un dégoût du sexe et qu'elle aura du mal à satisfaire son homme. Je suis mariée, je souhaiterais tomber enceinte, dit donc Laurel dans son message Facebook, et avoir un garçon m'effraie parce qu'elle a peur donc d'être dégoûtée.
Voilà. Alors, c'est pas du tout vrai. Ça, c'est une légende. La plupart des femmes n'ont absolument aucun dégoût pour la sexualité pendant leur grossesse. D'ailleurs, le deuxième trimestre, on dit souvent que c'est la lune de miel de la grossesse où les femmes ont beaucoup de désirs et même certaines découvrent l'orgasme à ce moment-là. Et donc, que ce soit une fille ou un garçon, c'est pareil. En revanche, il y a beaucoup de femmes enceintes, mais que ce soit une fille ou un garçon, hein, qui sont fatiguées, qui ont beaucoup envie de dormir pendant le premier trimestre ou qui ont des nausées. Du coup, elles ont moins de désirs. Et pendant le troisième trimestre, donc en toute fin de grossesse, souvent elles ont moins envie d'avoir des rapports sexuels à cause du poids du bébé qui est quand même un peu gênant. Mais quand il y a du dégoût, parce que ça arrive quand même, c'est presque toujours, je dirais, lié à une triste histoire au niveau du sexe. C'est-à-dire qu'on a eu des attouchements, une agression, une tentative d'agression, des remarques blessantes, une éducation qui vous a dégoûté du sexe. Ça peut être à cause de tout ça, mais c'est certainement pas à cause du bébé.
Alors, si vous souhaitez que le docteur Catherine Solano réponde à une de vos questions hein, dans une autre émission, vous pouvez poser ces questions sur Facebook Priorité Santé ou bien laisser votre numéro de téléphone pour qu'on vous rappelle. À très bientôt. Et demain, nous parlerons dans Priorité Santé de l'hypertension. On attend toutes vos questions au 33 1 84 22 75 75 et sur la page Facebook de l'émission. À demain.
C'était Priorité Santé avec Sunou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sunou Assurance, notre métier.